Good bon. Evening.
Ah, voilà, on vient d'entendre la voix d'Alfred Hitchcock. Écoute, alors je vais faire une blague, puis j'espère que tu apprendras pas mal. Je pense que la seule ressemblance, vous avez de quoi en commun, toi puis Alfred Hitchcock, hein? Le crâne.
Ah oui, le coco.
La calvitie, c'est vraiment pas un problème, c'est beau, mais pour les gens qui... Je sais que les gens qui perdent leurs cheveux trouvent ça difficile, mais moi, franchement, je me dis...
Mais moi, je perds pas mes cheveux, c'est parce que je suis tanné. Je dis là, je suis tanné, le matin, là, de ça, d'aller chez le coiffeur, au mois, trois semaines, un mois, je dis, tiens, je me rase le coco.
Ah oui?
Ouais. J'ai laissé repousser à un moment donné, juste pour voir. Puis c'était encore assez fourni. On voit, c'est sûr qu'il y a un peu de calvitie, mais j'ai encore beaucoup de cheveux.
Ouais, moi, j'ai toujours pas de cheveux gris. Puis ça, c'est mon coiffeur est la seule personne qui connaît le secret de ça. Ah. Alors, on va parler d'Alfred Hitchcock. C'était pour ça qu'on a fait jouer la musique d'ouverture de l'émission de télévision.
Mm-hmm. Alors, le réalisateur de Psychose revendiquait sa chasteté.
Ah!
Eh oui. Il prenait un malin plaisir à effrayer ses collaborateurs et ne voulait pas de Marilyn Monroe dans ses films.
Ben voyons donc, toi!
Oui. Un article de Ludivine Loncle dans « Ça m'intéresse, histoire » de l'automne 2024.
Donc, c'était pas un monsieur facile, hein?
Oh non, 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 non. Pas du tout.
Ouh!
Un physique à faire peur, le futur maître du thriller, c'est ce que croit le jeune Alfred Hitchcock. Son mal-être ne vient pas de nulle part. Dans le collège jésuite où sa catholique de mère l'envoie à 11 ans, il subit les coups des professeurs et les moqueries des camarades qui rient de ses kilos en trop.
Ah bon?
Il a toujours été un peu rondouillard.
Ah, mais la grossophobie, hein, ça existait aussi à cette époque-là. Puis c'était même mainstream, on en faisait pas de cas.
Oui. Le petit Alfred se referme dans sa maison du quartier londonien de Leytonstone, qu'il a vu naître le 13 août 1899. Il vit une enfance sans amis, entre un papa marchand de volailles et une maman au foyer sévère et protectrice. Les années passent, mais pas les complexes. De son éternelle silhouette rondouillarde, ce fin gourmet dira adulte, « Elle est mon armure de gras. »
Ah! Oh!
Il débute au cinéma comme dessinateur. Alors, des stylos au studio, il n'y a qu'un pas. Début 1920, la Famous Players Lasky, future Paramount, ouvre une antenne à Londres. Pour Hitchcock, qui ne rêve que de grand écran, l'occasion est trop belle. Ce modeste employé d'une société de câbles électriques propose ses services comme dessinateur et avec tous ses intertitres à illustrer, parce que c'était l'époque des films muets, donc il y avait des cartons entre les scènes, le cinéma a besoin de talent et de gamins, et ce gamin de 20 ans est tout doué. N'est-ce pas à lui que son entreprise a confié la création de ses publicités? Sa force de travail et son perfectionnisme feront le reste. Très vite, Alfred Hitchcock est embauché comme chef des intertitres avant de passer par tous les métiers du cinéma, puis de réaliser, en 1925, son premier film, Le Jardin du plaisir.
Jardin du plaisir.
Ouais, ce sera un film muet, je comprends bien, là.
Mais on n'est pas dans des... Est-ce qu'on est déjà dans les trailers? Je ne pense pas, hein? Jardin du plaisir.
Je ne sais pas, c'est un film que je n'ai pas...
Moi non plus,
je n'ai
jamais vu ce film. Je ne savais même pas qu'il avait fait un film qui s'appelait Le Jardin du plaisir.
Le Jardin du plaisir,
ouais.
Sa demande en mariage est inattendue. 54 ans durant, elle aurait été sa femme, son double, son rock. Elle, c'est Alma Reville, Madame Hitchcock à la ville. Quand, en 1923, sur un tournage, il croise ce bout de femme aux cheveux roux, le jeune Alfred a le coup de foudre. Sauf qu'il n'est encore qu'un assistant, tandis qu'elle est déjà une monteuse reconnue. Cette pionnière occupe le poste féminin le plus important du cinéma européen d'alors. N'est pas rien. Il faut à ce grand timide d'un voyage en Allemagne en 1926 et, excusez là, les vomissements d'Alma, prise de mal de mer sur le paquebot du retour, pour qu'il la demande en mariage. « Il fallait que je vous surprenne quand vous seriez trop faible pour dire non, lui avoue-t-il. »
Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu!
La future épouse sera aussi la mère de son unique enfant, Patricia, et sa plus proche collaboratrice, qui retravaillera ses scripts et ses scènes.
Mais le mal de mer, faut que je fasse une intervention. Le mal de mer, c'est vraiment épouvantable.
Ah oui,
moi, j'en ai jamais souffert, sauf que j'ai une condition qui fait que de temps en temps, j'ai des étourdissements.
Ah.
Et... C'est pas compliqué. J'ai la nausée tellement je pense que ça ressemble à ça un peu, le mal de mer,
Ah non, c'est affreux. Ceux qui ont ça, là, c'est horrible, horrible. Là,
ah non, moi, je ris pas de ces gens-là. C'est carrément pas drôle. Puis ça se traite difficilement.
Et Hitchcock avait la phobie de deux choses.
Ah oui?
Auriez-vous une idée de quoi?
OK, attends. je vais me lancer, puis on va demander à Maurice aussi. Moi, je dirais qu'il avait la phobie des bibittes.
Non.
Et puis, il y avait la phobie des cadres tout croche quand il allait dans un bureau. Ça, c'est la mienne en passant. Moi, je rentre dans des bureaux, puis sans même m'en rendre compte, je vais tout remettre tout droit.
Ouais. Maurice? Ouais.
Les oiseaux.
Ben non. Vous êtes loin, 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 tous les deux. J'étais très loin, moi aussi, avant de lire l'article. Il y avait la phobie des œufs.
Voyons.
Ben oui. Et de la police. Police, on peut comprendre un petit peu, mais c'est quand même bizarre. C'est que le virtuose de la peur a la chair de poule à la vue d'un œuf. Avez-vous jamais vu quelque chose de plus répugnant qu'un jaune d'œuf se brisant et répandant son liquide jaune? Demande-t-il. Ce n'est pas la seule frayeur d'un homme pétri d'angoisse et trop effrayé par ses propres films pour les voir, parce qu'il ne voyait pas ses films, apparemment. La police, c'est son grand cauchemar, son deuxième grand cauchemar.
Et voyons.
Ce traumatisme daterait du jour où son père l'envoya au commissariat avec un mot disant qu'il n'avait pas été sage. Un policier, de mèche avec le papa, aurait alors enfermé le garçon de 5 ans dans une cellule durant 10 longues minutes.
Ben voyons donc.
Résultat, une peur panique de l'uniforme pour le restant de sa vie et un cinéaste qui ne conduira jamais par crainte d'être arrêté. Incroyable. Figurant un jour, il en a fait un gag. Une silhouette avec un chapeau de cow-boy derrière une vitre dans Psychose. Un monsieur qui rate son bus dans La mort aux trousses ou un réparateur de pendule dans Fenêtre sur cour. Le point commun entre ces figurants de l'œuvre Hitchcockienne,
ouais.
Ils sont tous joués par le réalisateur lui-même.
Ça, c'est vraiment une bouche pleine, hein?
Oui. Au total, cet Américain d'adoption apparaît dans 41 de ses films.
Ah.
Et beaucoup, oui. Une petite apparition, 5 secondes, 10 secondes, là, mais assez pour qu'on le reconnaisse.
Il faisait des caméos, hein? Beaucoup. Oui. Ouais.
Ce fut d'abord par nécessité quand, en 1926, sur le tournage de son long-métrage « Les cheveux d'or », il manquait un figurant. Hitch s'était alors proposé pour jouer cet homme de dos que l'on voit à peine dans le bureau d'un journal. Plus tard, c'est devenu une superstition et ensuite, c'est devenu un gag, confiera-t-il. Mieux, les caméos, apparition furtive à l'écran, vont devenir sa marque de fabrique que les spectateurs guetteront à chacun de ses films.
Mmh.
Bon, la première fois que j'étais allé voir un film de Hitchcock, j'étais avec des gens qui connaissaient qui avaient déjà vu les films, puis ils ont dit, c'est le fun, on va surveiller à quel endroit il apparaît là, dans le film.
Il y a beaucoup de cinéastes qui font ça, puis beaucoup d'auteurs. Hein, Xavier Dolan est souvent il est dans tous ses films, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Puis je pensais aussi à Simon Boulris. Il fait des émissions de télé, puis il y a toujours un rôle, que ce soit un petit rôle, une apparition, il est toujours là aussi. Ah. Ouais.
Hitchcock revendique sa chasteté. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'une femme faisait pour avoir un enfant, et encore moins ce que faisait un homme quand il était avec sa maîtresse.
Aïe, aïe, aïe.
Le cinéaste le dit sans détour, quand il a rencontré sa future femme à 24 ans, il était encore vierge. Complexé, il n'aurait même fait l'amour qu'une fois dans sa vie avec Alma pour concevoir sa petite Patricia. Mais si ses sentiments pour son épouse sont aussi chastes que sincères, son rapport à la sexualité n'en est pas moins complexe. Ses films parlent pour lui. La charge érotique y est souvent très forte, comme cette façon presque fétichiste de s'attarder sur le chignon de Kim Novak dans Sueur froide, ou ce train de la mort aux trousses qui s'engouffre dans un tunnel alors que les deux héros s'enlacent.
Ah.
Il a participé à un film sur la Shoah.
Ah oui?
Oui. En 60 ans de carrière, ce sont les images qui auront le plus glacé le sang du maître de l'angoisse. Ce qu'on y voit, des déportés rescapés et des charniers de corps décharnés. La mort sur pellicule noire et blanc. Ce film, Memory of the Camps, est un montage de séquences tournées par les Alliés à la Libération. C'est Sidney Bernstein, un ami d'Hitchcock, qui dirige ce documentaire sur la Shoah produit en 1945 par l'armée britannique pour secouer et humilier les Allemands. Importante mission à laquelle il associe son copain cinéaste qui lui conseille ceci. Privilégier les plans longs, sans coupure, histoire de démentir tout trucage et de prouver la véracité d'images auxquelles personne ne peut alors croire.
Ah.
Et qui, de l'aveu d'Hitchcock à la fin de sa vie, ne l'auront plus jamais quitté. Ces blagues douteuses ne font rire que lui. Le monstre du septième art aime donner des sueurs froides à l'écran comme en coulisses. Acteur, technicien, scénariste, personne n'échappe à ces blagues douteuses. Ce grand phobique prend plaisir à jouer avec les peurs des autres en leur offrant des boîtes pleines d'araignées ou de souris. Et qu'importe si la farce va trop loin, comme ce jour où Hitchcock donne un laxatif à un accessoiriste.
Ben non!
En lui faisant croire qu'il s'agit de brandy. Mais attendez, pas fini, là. Attends un petit peu. Lors d'un pari, le malheureux là, avait juré qu'il passerait la nuit sur un plateau, soi-disant hanté, seul dans le noir et menotté à une chaise. On ose imaginer la scène au petit matin avec une victime souillée et humiliée et un sadique qui jubile. Oh, c'est méchant.
C'est vraiment méchant.
Oui, oui. Il est prêt à tout, M. Hitchcock, pour terrifier ses spectateurs. Certes, il aura fallu à Hitch une semaine de tournage et 70 prises pour une séquence de 45 secondes, mais quelle scène? Celle de la douche dans Psychose.
Ah, c'est emblématique, hein?
Une semaine de tournage.
Hein? Une semaine de tournage.
Ouais. Ces images où l'on voit la comédienne Janet Leigh se faire tuer à coups de couteau alors qu'elle se lave dans la salle de bain d'un motel sordide ont terrifié des générations de spectateurs depuis la sortie du film en 1960, dont moi, je suis un de ceux-là. L'ombre du meurtrier derrière le rideau, les hurlements glaçants de l'héroïne et tout ce sang qui gicle dans une douche immaculée, Hitchcock veut que le public ressente physiquement l'effroi de la victime. Et pour ce faire, il tient à tout prix à surprendre. Les acteurs ne doivent pas donner d'interview, l'entrée aux séances est refusée aux retardataires et il tente d'acheter tous les exemplaires du roman dont est tiré Psychose pour garder l'intrigue secrète. Marilyn Monroe n'est pas son genre. Je ne crois pas qu'une femme doit avoir le mot « sexe » tatoué sur la peau. La voilà prévenue, Marilyn Monroe, qui rêvait de travailler avec le grand cinéaste, devra passer son chemin. La raison? La plantureuse star est l'opposé de sa femme parfaite. Blonde et majestueuse, froide et mystérieuse, mais le feu sous la glace. Plus qu'une préférence, c'est une obsession. D'Ingrid Bergman à Kim Novak, en passant par sa chouchoute Grace Kelly, princesse de Monaco après ça, le père du film à suspense ne tourne plus sans une blonde Hitchcockienne. Mais en 1963, l'obsession vire au harcèlement. Sur le tournage des Oiseaux, le sexagénaire s'éprend de Tippi Hedren alors que la jeune actrice se refuse à lui. Et fou de rage, Hitchcock surveille ses fréquentations, l'embrasse de force et cruel, se venge sur le tournage en faisant lancer sur elle, 5 jours durant, des oiseaux vivants. L'un d'eux manque de crever l'œil à la pauvre Tippi traumatisée et cauchemardesque comme dans un film de Hitchcock.
Et on va aller à la pause, mm-hmm. On va revenir à terminer cette chronique-là. Plus je t'entends, j'ai l'impression que finalement, Me Too, ça a commencé bien avant ce qu'on a eu récemment, parce que quel comportement détestable.
Hein? Mm. Ah ouais. Mm.
On ne penserait pas ça. Mm. Ah, on en découvre des choses à cette émission de radio. Merci, Solvredet. On revient après la pause avec toi dans 2 minutes, puis on termine cette partie de la chronique et on en fait une autre.
D'accord.
Eh bien, je pense qu'il restait des petites choses à dire sur ce personnage pas aussi sympathique qu'on l'aurait cru.
Non, c'est ça.
C'est vrai, quand on le voyait en onde à la télévision, il avait l'air d'avoir de la bonhomie à son sujet.
Ben oui.
Mais c'était pas tout à fait ça.
Non. Il a été refusé à Disneyland.
Ah.
Un cinéaste aussi mythique que lui, Walt Disney, qui lui refuse l'entrée de Disneyland au début des années 1960. Hitch aurait bien aimé y tourner quelques scènes, mais pour le père de Mickey et producteur de Cendrillon, pas question de laisser l'homme responsable du répugnant Psychose tourner dans son parc d'attractions à l'univers merveilleux. Non, tu tournes pas. La fin de sa vie manque de suspense. Une mort sans suspense ni coupable. Juste une fin de vie tristement banale où la maladie est devenue le quotidien d'un cinéaste presque octogénaire. Depuis les années 70, Hitchcock souffre d'une terrible arthrite au genou, sans compter que la santé d'Alma, sa femme, depuis son attaque cardiaque sur le tournage de Frenzy en 1972, le mine. Alors, pour apaiser la souffrance, Hitch se met à boire. Du whisky et du champagne qu'il s'enfile en regardant des films, toujours les mêmes, des James Bond, comme Bon baiser de Russie et sa scène de l'hélicoptère qui évoque étrangement l'avion traquant Gary Grant dans La mort aux trousses. Le 29 avril 1980, clap de fin, Alfred Hitchcock, 80 ans, meurt dans son sommeil à son domicile de Bel Air à Los Angeles, entouré des siens, et ses cendres sont dispersées dans le Pacifique.
Ah, mais c'était quand même un génie du cinéma. Oui. On n'y enlève pas ça. Mais là, on se rend compte que c'était... Ben, je pense que ça aurait été un cas de Me Too.
Oui, et il n'a jamais eu l'Oscar dont il rêvait.
Ah ben non, c'est vrai.
Non. Et il a été anobli par la reine Élisabeth II comme chevalier de l'Empire britannique, là. Mais ils ont annoncé sa nomination et puis la remise de la décoration se fait plusieurs mois plus tard, puis il est mort entre-temps.
Ouais. Ben, on est passé à côté. Alors, oui, oui. On a une autre chronique, hein? C'est mammifères marins qui nous ressemblent.
Oui, 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 oui.
Là, t'es pas en train de me dire que je ressemble à une baleine?
Non. Alors, les mammifères marins qui nous ressemblent.
Dauphins, c'est mammifère.
Oui, c'était un article de la rédaction dans le TV Hebdo. C'est la biologiste Vicky Penneau qui est passée à une émission de télévision et elle a plongé dans l'univers fascinant des baleines et de leurs surprenants points communs avec nous. De quoi nous faire voir le plus grand animal du monde autrement. La baleine à bosse et sa sensibilité touchante. La baleine à bosse est reconnue pour certains de ses comportements troublants. Des observations ont démontré que des individus ont protégé des phoques lors d'attaques d'orques. Allant jusqu'à les hisser sur leur dos pour empêcher les prédateurs d'approcher. Cute, hein? Peut-on parler d'empathie? La biologiste nous garde contre les pièges de l'anthropomorphisme, oui. Cette tendance bien humaine à prêter nos émotions aux animaux. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il s'agit d'empathie, mais ces gestes soulèvent des questions fascinantes sur la sensibilité de ces géants des mers. Ensuite, la baleine bleue,
ouais.
Et ses appels interurbains. Ben elle a téléphone, elle nous appelle.
Ben oui, là.
On a longtemps cru que la baleine bleue vivait en solitaire. Pourtant, son chant, composé d'ondes basses et stables, peut parcourir des distances impressionnantes sous l'eau. Une baleine au Québec pourrait ainsi être entendue jusqu'aux côtes européennes.
Ben voyons.
Cette capacité de communication à très longue distance remet en perspective notre définition de la solitude. Après tout, nous aussi pouvons sembler seuls, tout en étant constamment connectés.
Ah, mon Dieu. Et sans téléphone portable, la baleine.
Oui,
ça va bien.
Exactement, oui, oui, oui. L'orque et sa façon intrigante de communiquer. Les différentes familles d'orques n'utilisent pas toutes les mêmes sons. Accent ou langue distincte, le débat est toujours ouvert. Certaines signatures sonores semblent même propres à chaque individu, laissant croire qu'il pourrait avoir une forme de prénom. Hein? Une hypothèse qui change complètement notre perception de ces impressionnants prédateurs. Ils s'appelleraient par leur prénom.
Ah, oh, mon Dieu! Mais c'est quand même, hein, la nature a des fois, les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point la nature nous surpasse.
Oui, oui, oui. Deux émissions que j'adore, moi, Découverte, La Semaine Verte, et les autres documentaires sur tout ce qui est nature, le monde, qu'on en apprend des choses.
Mais le danger, c'est que les gens font de l'anthropomorphie. Puis bon, moi, je sais, j'ai un animal de compagnie qui est un chien. Le chien, lui, ce qu'il veut, c'est ton attention.
Ben ouais.
Alors, c'est pas qu'il essaie d'être cute. Il essaie pas d'être cute, il veut ton attention. Puis quand des gens me disent, ah, il met la tête sur le côté. Je dis toujours, vous savez pas, hein, mais le chien, là, quand il a la tête droite, avec son museau, il ne voit pas.
Ah?
Tu ne vas pas aussi bien, alors il se met la tête sur le côté pour te voir. Mais les gens disent, ah, il me fait... Puis c'est sûr que quand il reçoit, ah, oh, t'es donc un beau petit chien, ben il va le refaire. Il va le refaire, mais c'est pas... Puis je pense qu'il faut arrêter de faire de l'anthropomorphie puis de vraiment traiter son animal comme ce que c'est. C'est
un
animal.
Comme un animal.
Ouais.
Le cachalot, adepte des câlins.
Ah ouais?
Eh oui. Le cachalot impressionne par la force de ses liens sociaux. Les membres d'une même famille restent très proches, se frottent les uns aux autres et multiplient les contacts physiques. Ces rapprochements, observés entre adultes et jeunes, mâles et femelles, rappellent nos accolades et nos gestes d'affection. Même avec une peau épaisse, ces géants ressentent et recherchent la proximité. Il y a un documentaire que j'avais vu où on les voyait, ils les avaient filmés, puis effectivement, ils se collaient les uns les autres. C'est impressionnant de voir ces masses-là énormes se faire des... Des petits câlins.
Oui.
Le dauphin, c'est un cuistot des mers. Comment cela? Chez certains dauphins, on a observé un comportement étonnant. Ils frottent leurs poissons qu'ils ont capturés contre du corail, retirent certaines parties avant de les consommer, comme s'ils apprêtaient leur repas. Ce geste ne serait pas essentiel à leur survie, mais relèverait plutôt d'une préférence transmise d'un individu à l'autre. Une forme de culture animale, en quelque sorte. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de toucher la peau du dauphin.
Oui.
Mais à Cuba, c'est particulier, hein, comme peau.
Ben, puis en fait, hein, j'ai fait des trucs qu'on devrait peut-être ne plus faire maintenant. J'étais allé dans des endroits où on a la possibilité de nager avec des dauphins.
Ah, bon, oui.
C'est pas toujours très bon pour eux autres, ben mais non. Effectivement, la peau du dauphin, c'est assez surprenant.
C'est comme un peu métallique, je me rappelle.
Mais quel animal intelligent.
Oui.
Quel animal intelligent. Bon.
Alors maintenant, des randonnées au Québec pour observer les baleines.
Ben oui.
Oui, un article de Marie-Ève Blanchard dans le TV Hebdo. La topographie sous-marine et l'abondance de nourriture rendent plusieurs sites du Saint-Laurent propices à l'observation des mammifères marins.
Ah ben, rien de moins.
Oui. Juillet est d'ailleurs un mois idéal pour les apercevoir. Munissez-vous de jumelles et partez randonner le long des rives à la rencontre des fascinants cétacés. Sentier de la pointe de l'Islet. Sur la côte nord. Très court, le sentier de la pointe de l'Islet offre toutefois la possibilité d'observer des baleines, des bélugas et de nombreux phoques aux abords de Tadoussac, où les cétacés sont bien présents de mai à fin octobre. Donc, on a encore le temps là, pour y aller. La fosse marine y remonte brusquement, piégeant d'abondants organismes nutritifs, un véritable festin pour les baleines, comme la bleue, qui engloutit une tonne de krill par jour. Mmh. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, beaucoup, ça.
Beaucoup, ça, ouais.
Le sentier est bien aménagé le long du fleuve et du Saguenay, avec des promenades en bois et quelques passages sur des rochers, et il est bonifié de panneaux d'interprétation sur la vie des écosystèmes marins. Non loin de là, au Bergeronne, le centre d'interprétation et d'observation de Cap de Bon-Désir permet d'apercevoir les baleines depuis les rochers. Un très court sentier qui s'étire de la maison du gardien du phare jusqu'à la rive traverse sur 300 mètres une jolie forêt mixte. Les campings paradis marins et mer et monde et coutours constituent aussi des endroits exceptionnels bordant l'estuaire pour l'observation des mammifères marins. Peut-être aurez-vous la chance de vous y réveiller au son du souffle d'un rocal. Le banc de Portneuf sur la côte nord. Cet endroit enchanteur mérite d'être connu et assurément qu'on s'y attarde. Le banc de sable de Portneuf semble tout droit sorti des plus belles îles du Sud avec ses longues plages. Outre le printemps, la meilleure période pour observer les cétacés s'étale de la mi-juillet à octobre avec un pic en août et septembre pour les grands rocals bleus communs à bosse. C'est aussi un lieu idyllique d'observation d'une certaine espèce d'oiseau. L'île verte dans le Bas-Saint-Laurent.
Oui, t'as déjà fait, toi, l'observation des baleines?
Non, jamais.
Parce qu'on parlait tantôt de mal de mer. Mm-hmm. J'avoue que ça aussi, ça brasse pas mal quand on va voir les baleines. Il faut se munir de petits, je pense, de graffoles. Je pense que c'est ça qu'on prend. Mais c'est fascinant. C'est de toute beauté de voir ça.
J'avais déjà fait la traversée, moi, du fleuve, parce qu'on jouait à Rimouski, avec le Théâtre populaire du Québec, dans le temps, puis on traversait à cette île, je pense. Et puis en plein milieu du fleuve, là, ça commençait. Là.
Ah, c'est
Il était temps
c'est
qu'on arrive.
Oui, mais c'est tellement de toute beauté. Puis quand tu prends le traversier, je pense que c'est celui de Saint-Siméon-Rivière-du-Loup. À certaines périodes de l'année, tu peux voir aussi des baleines.
Oui.
Puis c'est intéressant, tu vois le jet d'eau, là, c'est vraiment de toute beauté, c'est impressionnant. Puis encore une fois, j'ai toujours hâte d'observer juste la vie autour de nous. C'est beau. Ouais.
Un autre endroit, l'île verte. Bas-Saint-Laurent.
Oui.
Le nord de l'île verte est un fabuleux endroit pour observer des petits rocals et des bélugas, parfois de très près. En marchant vers l'ouest, depuis le phare de l'île, le sentier sauvage se trace à même la rive. Dans un décor salin magnifique se succèdent les panoramas de forêts et de plages sablonneuses, rocailleuses et de galets. Arrivé au bout d'en haut, il suffit de s'asseoir sur un immense rocher pour contempler de belles bêtes à une trentaine de mètres de la rive qui affectionne ce coin pour s'alimenter. Les cétacés sont actifs de mai à octobre avec un pic en juillet, de juillet à septembre. À l'heure du coucher de soleil, c'est encore plus magnifique. Il y a encore beaucoup de temps pour y aller. Hein?
Oui.
Promenade des Escoumins et sentier des Moulins. Côte-Nord. Cette promenade passe en plein cœur du village des Escoumins et longe la baie avant d'atteindre le site de Pointe-à-la-Croix, d'où on peut observer de nombreux oiseaux migrateurs et des baleines. Le sentier des Moulins, qui débute derrière la poissonnerie, longe quant à lui la rive ouest de la baie et conduit jusqu'au quartier du Traversier, un site privilégié pour observer les cétacés. Les petits rorquals sont régulièrement au rendez-vous à proximité de la berge, ainsi que les bélugas, rorquals bleus et Rorqual Commun qui s'approchent également à l'occasion. Alors voilà, vous savez, on a quand même jusqu'en octobre pour y aller, alors pas trop tard. Ceux qui ont des vacances encore à prendre.
Ouais, moi je prends des vacances du 1er au 7 septembre, mais je vais surtout aller dans la région de Québec, dans ma famille, puis passer un peu de temps peut-être à l'île d'Orléans aussi. Mais j'ai déjà fait ces excursions pour voir les baleines aussi dans la baie de Fundy, Nouvelle-Écosse, quand j'habitais là. J'avais même amené ma maman voir ça. Elle était tellement impressionnée. Et ça m'a étonné parce que elle n'avait pas le mal de mer. C'était quelqu'un qui avait l'estomac fragile.
Ah!
Ouais, alors c'est toujours des trucs qu'on pense que, puis on estime que. Ça fait que, on a fait le tour?
Oui, les petites brèves.
On va y aller après la musique.